d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salon attachant, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Cheers 94.3.
And I was like, you lost me there. I got fam in foster care, cause it wasn't my crush to bear. Lots of prayers, long distance, but life's not as fair for a child with a problem parent. Not comparing or judging, not as caring. Must have lost my bearings. My vision is tunnel, I live in a bubble. But living's enough, I've been in the struggle. So I send peas but can't listen to troubles. Forgive me, I love you, but I live a life paved with lies. Every day I say I'm fine, then lay awake at night contemplating ways to fly, but then I stabilize, I stay alive. Take my time, so they only see me in the right state of mind. We all rise and decline. I don't wanna live a life they designed.
Le char est pacté, mon sac aussi. Ça y est, je peux prendre la route. Ah non, j'oubliais. Et comment oublier? De ma main, j'empoigne cette vieille pile d'albums. Ils sont abîmés, les pochettes de plastique sont craquées, les morceaux ne tiennent plus ensemble, et celles de carton apparaissent gondolées, déchirées par endroits. À l'intérieur, les disques se révèlent rayés, certaines chansons ne jouent plus. Mais qu'importe, je préfère devoir sauter des pièces que d'affronter ces heures d'asphalte sans la poésie de cet artiste grandiose. En fait, si ces disques sont aussi usés, c'est parce qu'ils m'accompagnent partout. J'ai souvent besoin de retrouver ce monde musical plein de moments parfaits et d'instants de lucidité. J'ai si souvent besoin du monde de Jean Leloup.
Alors bonjour et bienvenue à l'émission La Planète des Sages, l'émission où nous fouillons dans la pensée, dans l'œuvre d'une personnalité de la culture populaire en quête de sagesse. Donc on tente de répondre à la question, que peut-on apprendre de cette personne? On est bien content d'être de retour cet automne à la nouvelle plage horaire du jeudi 11h, on sera là toutes les semaines. On est en Patrick Couture, Émilie Brousseau-Gauthier et moi-même. Patrick, Émilie, comment ça va?
Ça va super bien!
Très bien François, je resplendis de bonheur. Moi, je suis super content d'être en studio en ce moment.
Ah oui, tu le disais d'ailleurs là, que ça te faisait du bien de retourner là, puis de savoir que c'était notre première émission. Là. Puis,
oui.
Puis en plus, Émilie, c'est le fun, toi aussi, tu es de retour avec nous. Puis tu vas être de retour de beaucoup plus qu'avant parce que tu vas être une collaboratrice régulière.
Oui, puis ben, je suis super contente de ça. Ça va être le fun de venir à l'émission, pas juste... présenter des figures, mais aussi juste venir discuter avec vous autres. Là.
Ben oui, parce que nos fidèles auditeurs l'auront remarqué, notre ami collaborateur Émile Lapointe ne sera pas avec nous malheureusement cette saison. Bon, son excuse, c'est qu'il est présentement en train de travailler en tant que journaliste pour Radio-Canada au Manitoba. Franchement, ça, c'est pas une excuse valable, à mon avis. Là. Mais en tout cas, mais la bonne nouvelle, c'est que sa douce moitié, Raphaël Laverdière, que vous avez connue l'année dernière, ben, elle va être avec nous aussi cette saison pour certaines émissions. Donc, on est bien content. On sait que vous l'aimez, Raphaël. Mais en attendant Raph, ben, on va devoir se contenter de Patrick, qui va mener la vague de l'émission d'aujourd'hui, parce qu'on va commencer ça tout de suite avec nul autre que, vous l'aurez deviné, Jean Leloup.
Oui, je suis super content de commencer ça avec Jean Leloup. C'est quelqu'un qui, personnellement, me suit dans ma vie depuis vraiment longtemps.
Freak, hein? Jean Leloup qui te suit partout.
Bon. Métaphoriquement, bien sûr, mais comme je le disais dans mon texte d'introduction, je les ai à côté de moi en ce moment, là, ses disques. En fait, j'ai presque toute sa discographie en album. Puis moi, c'est sur la route, là, il y a eu un moment, là, cégep environ, où j'écoutais presque seulement du Jean Leloup. Là. C'était... pour certaines personnes tannales, parce que je ne voulais écouter que ça. Je sais pas, déjà, votre relation à Jean Leloup, François, d'abord?
Mais moi, de mon côté, vu que c'est un artiste qui est un peu... Ben, qui est transgénérationnel, là, tout le monde peut l'aimer, que tu sois... que tu aies 25 ou 50 ou 70 ans. Là, fait que moi, c'est un artiste que, dans ma famille, on l'écoutait tous. Tout le monde appréciait Jean Leloup. C'est assez... tu sais, il y a des... Tout le monde l'appréciait, fait qu'on c'était un moment, je le connais pas autant que toi, mais je partageais ses plus grands hits et quelques albums avec ma famille dans le char.
Émilie, de ton côté?
Ben, tu sais, Jean Leloup, il est très connu, donc j'ai l'impression que j'ai toujours connu certaines de ses tunes, là, mettons, à la guitare autour des feux de camp quand j'étais jeune, mais il est entré dans ma vie, disons... intensément au secondaire, là, je dirais genre secondaire 3, 15 ans, l'adolescence, dans le tapis. Hein? On en avait parlé la saison passée. Ouais, donc j'ai vraiment une phase justement où j'écoutais tout le temps du Jean Leloup, un peu comme toi, juste un petit peu avant, dans le fond.
Ben oui, t'es une avant-gardiste, Milly.
Malgré que Jean Leloup avait sorti ses premiers albums avant même que tu naisses. Là.
Effectivement.
Je vois dire que tu l'as découvert tant que ça. Là.
Ouais, en tout cas. Mais bon, fait que Jean Leloup, aujourd'hui, ça va faire du bien, je pense, de se pencher sur sa carrière. On va commencer d'abord en s'intéressant à sa biographie, bien sûr. Juste le noter là, pour l'émission, on a quand même, on s'est inspiré, en fait, il y a quelqu'un, Nadia Murray, qui nous a grandement aidé à la préparation, en fait, qui m'a aidé plutôt, qui a écrit tout récemment.
Elle sait pas qu'elle nous a aidé, mais...
Ouais, c'est ça, elle sait pas, mais elle a écrit Jean Leloup, le principe de la migale. C'est le premier essai, la première recherche, on veut, qui a été faite sur Jean Leloup. Ce qui, elle le note en introduction, est étonnant, parce que c'est un artiste marquant pour le Québec, mais jusqu'à maintenant, il y a personne qui s'était vraiment penché là, sur ce qu'il a apporté au monde musical. Et puis des analyses là, quand même plus poussées que simplement ce qu'on voit là, dans le monde culturel. Donc c'est vraiment une recherche plus académique, pourrait-on dire. Et notons aussi qu'il y a un forum qui s'appelle le Castel qui donne beaucoup, beaucoup d'informations. Là, je pense qu'il est un peu abandonné, mais pour les informations, là, jusqu'à 2010 environ, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de trucs qui ont été mis sur ce site Internet-là. Et la page Facebook récente, Ministry Dead Wolf, qui vont publier plein d'archives de chansons qu'il a faites au début de sa carrière, d'entrevues. C'est vraiment des fans finis qui sont constamment en train de ressortir de la poussière des vieux trucs et ça vaut la peine.
Mais Dieu sait que des entrevues de Jean Leloup, là, ça vaut toujours la peine. On disait ça en annonçant l'émission sur les réseaux sociaux, mais c'est peut-être la personnalité qui donne les meilleures entrevues au monde.
Ou les pires,
ça dépend de ouais, comment tu vois ça, mais quand tu écoutes ça comme un divertissement, là, c'est vraiment quelque chose.
Oui, enfin, donc qui est ce drôle de personnage? Jean Leloup, en fait, s'appelle Jean Leclerc, ça c'est son vrai nom, c'est son nom de naissance. Il est né le 14 mai 1961 à Sainte-Foy, donc à Québec finalement, ben, à l'époque c'était Sainte-Foy. Ce qui signifie aussi qu'il a 60 ans aujourd'hui en passant, là, ça paraît peut-être pas, ou en tout cas moi j'imagine pas Jean Leloup comme une personne de 60 ans, mais c'est son âge. À l'âge de 3 ans, ses parents vont déménager au Togo. Ils enseignent là-bas là, les deux. Donc, il va rester là-bas jusqu'à l'âge de 9 ans, ce qui signifie qu'une bonne partie de son enfance, ça va être en Afrique, au Togo. Il dit c'était vraiment dans la brousse, là, d'un petit village, donc vraiment éloigné de la civilisation. Donc, on peut comprendre que ça l'a influencé pas mal le reste de son existence, d'autant plus qu'il est revenu au Québec quelques temps, mais après ça, avec sa famille, un nouveau départ, cette fois en Algérie. Et puis, l'Algérie sortait à ce moment-là de la guerre. Donc, un pays quand même où il a assisté à certaines violences, où il a vu des choses, c'est ça là, difficiles. On l'entend dans certaines de ses chansons, surtout en début de carrière, entre autres, Alger va décrire sa vie en Algérie. Il y a une chanson que, justement, Ministry of Wolf Dead Wolf ont ressorti, qui est Le Chien, qui raconte une histoire d'un chien pendu en rappel de la guerre. Donc, c'est jamais paru sur des albums, mais ça vaut la peine d'aller voir pour comprendre un peu plus là, comment l'Afrique est enracinée dans Jean Leloup, surtout qu'il a vécu là-bas jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, on parle de la partie de l'adolescence probablement la plus importante. Là. Ça l'a grandement influencé, d'autant plus qu'en Afrique, il a découvert aussi, c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à écouter beaucoup de musique. Il a découvert le rock des années 70, le rock de Jimi Hendrix, des Beatles, ben, 60, mais bon. Puis il y a également des chanteurs folk comme Bob Dylan. Et aussi, l'Afrique était marquée par la culture française, donc des artistes français comme Dutronc, entre autres. Dutronc qui chante les cactus, J'aime les filles. Et
quelqu'un qui connaît l'artiste, il voit aussi qu'il y a quand même des bons liens à faire avec Jean Leloup, là.
Exactement. C'est dans la façon de parler, en fait, de beaucoup de chanteurs français aussi, dans la façon de parler sur la musique pour en venir à chanter.
Une espèce de flow mitoyen entre le rap et le chant, là, des fois, là.
Effectivement, et puis Dutronc en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une figure de rock, probablement une des seules de cette époque-là en France, là. Ben, une des seules, une des rares où il représentait vraiment le rocker là, avec des grosses lunettes de soleil puis une vie cool. Puis ça aussi, on voit que ça a quand même eu une incidence sur Jean Leloup. Aussi, il faut dire que dans son adolescence, il va lire beaucoup, donc Jean Leloup a une culture littéraire, et puis ça, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est visible dans ses textes. Donc, il va lire Céline, Camus, donc les grands auteurs. Là. D'ailleurs, en revenant au Québec, donc à l'âge de 15 ans, après avoir fini le collège, il va s'essayer en littérature à l'Université Laval. Il va étudier quelques temps, mais ça ne marchera pas vraiment. Et puis à partir de là, sa vie devient un peu différentes choses. Là. Il va être portraitiste dans la rue, peintre en bâtiment, plongeur, serveur. Il va écrire des critiques littéraires de livres, mais sans être reconnu comme l'auteur. Donc c'est ça, il va être chercheur de fonds pour un organisme d'aide aux toxicomanes. Plein de jobines, dirait-on, comme ça, pour gagner sa vie. Et c'est là que la musique arrive, parce qu'il il était musicien depuis très tôt. Là. Il raconte en entrevue que ça a été vers l'âge, je pense, de 10 ans, là, qu'il a pris une guitare, puis qu'il a découvert qu'il pouvait jouer des accords, puis ça l'a fasciné. Mais il n'avait jamais pensé à une carrière musicale. Et c'est le festival de la chanson de Grimby qui, en ce moment-là, est un festival... c'est encore un gros festival, mais en ce moment-là, c'est pas mal la place où on peut devenir connu, puis où on peut...
C'est un bon tremplin pour les artistes, là.
Exactement. Puis même certains... J'avais entendu dans un documentaire, tu sais, le seul, presque, de l'époque, là, comparativement aujourd'hui, où on a les francs couvertes, où on a... C'est plus développé, là, mais à l'époque, c'est ça. Le festival de la chanson, c'était the place to be, pour parler en bon français. Et Jean Leloup arrive là-bas en 1983 tout simplement parce qu'il a besoin d'argent. C'est comme ça qu'il raconte. Il fait « Je veux gagner de l'argent, puis j'aime ça chanter. Fait que pourquoi pas faire une pierre deux coups? »
C'est pas la première fois, on dirait que... c'est peut-être la première fois qu'on l'entend dans son histoire à lui, mais on entend souvent, on dirait, l'histoire de Jean Leloup qui va se mettre à travailler parce qu'il a besoin d'argent, qui va comme se faire de l'argent en faisant un album, dépasser son argent, faire « Bon, OK, je vais partir sur un autre projet, j'ai plus rien.
Ouais, exactement. Bon, on va pouvoir voir aussi qu'il revient souvent à la musique parce que justement, c'est là où il peut gagner de l'argent. Mais donc, il va sortir gagnant de ce festival en 1983. Donc, déjà une première reconnaissance. On voit, il arrive là-bas, puis c'est pété ce qu'il fait pour les gens, mais c'est différent de tout le reste. Justement, il parle de l'Afrique, il fait du rock, mais en même temps, il y a une présence sur scène. Ça va le faire remarquer. On va lui proposer le rôle de Ziggy dans Starmania de Luc Plamondon. Rôle qui, rétrospectivement, il va qualifier de détestable. Ben, pas de détestable, mais il va dire qu'il n'a vraiment pas aimé son expérience de jouer Ziggy. Il trouvait ça plate et un peu...
Je pense qu'il a même dit qu'il trouvait ça quétaine, Starmania, puis c'est pour ça qu'il ne se sentait pas à sa place dans ce spectacle-là, qui pourtant était quand même vraiment un gros succès au Québec.
Oui, oui. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a plein d'anecdotes de genre lui, le mané qui était tanné, puis il est arrivé avec un mohawk, puis il a volé le show, fait que toutes les autres personnes dans la troupe étaient comme... Jean Leloup, fais pas ça.
On dirait qu'encore une fois, c'est une autre phrase qu'on peut s'imaginer avoir déjà entendu souvent. Jean Leloup, fais pas ça.
mais bon, donc ça va quand même le faire connaître un peu. Mais suite à ça, à nouveau, là, on a des périodes un peu où il déambule par-ci, par-là, dans le monde de la musique, il essaie de se faire une place. Et c'est en 89 que sort Menteur, son premier album, dont vous n'avez peut-être pas, chers auditeurs, entendu parler.
Même les gens dans le studio qui n'ont peut-être pas entendu parler, parce que moi, je connais pas l'album Menteur.
Ouais, Millie et moi, on a essayé de l'écouter cette semaine. Et Millie, peut-être un commentaire.
C'est assez différent de ce qu'on connaît de Jean Leloup. Puis je pense que c'est parce que c'est pas lui qui a fait la réalisation de l'album, donc il a été un peu peut-être contre son gré. Là, ses chansons ont comme été mixées d'une façon qui était clairement pas dans son identité musicale, disons. Puis comme c'est un disque qui est sorti dans les années 80, ça sonne vraiment années 80, là, avec du synthétiseur.
Les fameux synthétiseurs des années 80.
Exactement, on s'en sort jamais dans les années 80.
Tellement de tunes qui sont passées au bûcher à cause du synthétiseur des années 80.
Mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont mis pour Jean Leloup, c'était de la musique de machine. C'est fait avec des machines, puis c'est pas ça qu'ils voulaient. Et c'est ça qu'on l'a obligé à faire parce qu'il y avait un contrat de disque. Donc même lui, là, va immédiatement renier cet album-là. Il arrive au lancement déguisé en clown, puis il y a des hamburgers sur lui, puis ça c'est pour parodier le Ronald McDonald, parce qu'il dit que cet album-là, il a été fait comme du fast-food. Donc c'est comme ça qu'il le décrit dès le lancement de l'album. C'était pas très plaisant là, pour les gens qui avaient justement travaillé sur cet album-là. Faut dire quand même, c'est sur ce disque qu'on trouve Alger et Printemps d'été. Donc, deux grands succès de Jean Leloup. D'ailleurs, Printemps-été, j'ai dit Printemps d'été, mais c'est Printemps-été, il va essayer d'en faire le single de l'album, mais les radios vont pas accepter parce qu'ils trouvent que la chanson a un contenu vulgaire. Et puis, c'est le clip qu'ils vont faire, un clip assez impressionnant dans sa forme, surtout pour l'époque. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils ont organisé un gros party dans un appartement et ils ont filmé le lendemain du party. Et c'est ça, le clip. Donc, c'est juste plein de gens cassés raides qui sont couchés partout, puis des filles qui sortent de partout, pas tant habillées. Puis, donc, c'est ça, le vidéoclip qui va populariser la chanson. Ça va faire qu'elle va finir par passer à la radio. Et puis, les gens vont vouloir voir Jean Leloup parce que là, il va commencer à être connu. Mais Jean Leloup est parti en France, et en France, il est en train de former un nouveau band qui est la Sale Affaire. Et puis là, il va revenir de France avec ce band-là, donc un band à moitié québécois, à moitié français. Et ils vont jouer un spectacle au Foufoune Électrique à Montréal qui va marquer complètement le monde de la musique. Les gens là, vont entendre parler de Jean Leloup, vont faire « c'est l'artiste à voir en ce moment ». Ce qui va mener en 1990 à la sortie de l'album L'amour est sans pitié. Un album vraiment
classique.
C'est un classique de la musique québécoise.
Plein de hits, là. C'est presque un best-of, là.
Exactement.
C'est sûr, l'escargot aussi, mais c'est beaucoup, beaucoup de belles chansons.
Ah, exactement. Nathalie, entre autres.
1990.
Puis, Isabelle. Le vidéoclip d'Isabelle va aussi être marquant. Donc, un vidéoclip qui est réalisé par Di Salvio, un des membres de Brandvan 3000. Peut-être ça dit quelque chose aux gens. Là, un grand musicien et un grand cinéaste de vidéoclip québécois. Et puis justement, ils vont avoir une collaboration ensemble, Jean Leloup et Di Salvio. Ils vont faire des vidéoclips, de la musique. Entre autres, c'est lui qui va faire le vidéoclip de 1990. Donc, la chanson qui est la plus marquante aussi là, à cette époque-là. C'est probablement le hit québécois du début des années 90, 1990. Après cet album-là, Jean Leloup va disparaître. Il va dire, en fait, il va annoncer, ils vont faire des tournées très, très marquantes, mais il va dire, bon, il y a un album qui arrive et cet album-là, il va tarder. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'écrire, de réécrire. Il va faire, on dit, une soixantaine de chansons pour l'album qui va suivre. Il va jouer de la musique, il va voyager, il va apprivoiser la dépression aussi à ce moment-là de sa vie. D'ailleurs, j'ai une citation que je trouvais quand même intéressante. Il dit « C'est weird à ce moment-là. C'est weird le succès. Je pensais que ça allait être le nirvana. Je me suis rendu compte que c'est plate à mort. J'ai pourtant goûté à tout ce qui nous est refusé quand on n'a pas d'argent. Yoga, tennis, planche à voile. » Tennis. Mais le seul fun, c'est quand tu chantes tes tunes ou quand tu marches dehors et tu regardes les arbres. C'est un métier qui favorise l'égomanie, qui te fait vivre dans ton miroir, pas bon pour la santé mentale. C'est ce qui a transformé les gens intelligents en pauvres cons qui parlent de leur lifting à la une des magazines. Donc, je pense qu'il se rend compte qu'il n'est pas fait pour le végétarien à ce moment-là et aussi qu'il est un musicien. Ça revient beaucoup, le goût de jouer de la musique. Je sais pas, je sais que François, tu es un musicien aussi. Cette envie-là de jammer avec des gens, c'est vraiment présent chez Jean Leloup. Puis, quand tu pourrais décrire ça à des gens qui connaissent pas, qui n'ont jamais jammé, à quel point ça peut devenir ce qu'on met au centre de notre vie, ce désir-là de juste...
Ben, déjà, il y a le jam avec les autres qui peut, quand que tout se passe bien, quand il y a une espèce de créativité qui se fait sur de façon spontanée, c'est quelque chose de on vit quelque chose de presque ésotérique, là, dans le sens qu'il y a une espèce de flow, il y a une connexion avec la musique à ce moment-là. Il y a quelque chose de très enivrant là. Puis ceux qui l'ont vécu savent un peu de quoi je pourrais parler. Mais même quand on est seul, on peut vivre une espèce d'état de concentration intense où que là, tu sais, on joue de la guitare. Moi, je joue de la guitare, là, mais c'est Jean Leloup, tu sais, c'est un joueur de guitare. Puis il fait ça aussi. Il va jouer de la guitare tout seul, puis il va créer son monde. Et ça se fait, là. Il y a des gens qui prennent leur guide puis qui vont tomber dans un monde où ils vont quasiment oublier de manger. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois. Ah, c'est vrai, je viens de passer une journée à jouer de la guitare, mais c'est enivrant. On peut comprendre que ça peut devenir une espèce de drogue, mais une drogue qui est pas néfaste, là. Une des plus belles drogues au monde.
Oui, puis je crois que justement, entre 1990 et 1996, Jean Leloup se découvre un amour pour la musique très fort, qui l'invite à expérimenter énormément. Il se promène partout, il essaye plein de styles, et c'est ce qui va donner en 96 le Dôme. Encore une fois, là, tantôt on disait L'amour est sans pitié, grand album québécois. Le Dôme, c'est assez reconnu. Là, quand il y a des listes, mettons, des 10 meilleurs albums québécois, souvent on va placer le Dôme parce que justement, c'est incroyable. C'est un album qui va partout, dans tous les styles, qui est complet, qui est complexe aussi au niveau des textes. Il va continuer, Jean Leloup, justement, là, à produire, à voyager aussi, à faire un peu le ça, là, partir et faire des albums. Ça va donner en 98 Les Fourmis, un album différent du Dôme, peut-être plus planant un peu, mais également excellent, qui est très inspiré par son voyage en Afrique qu'il avait fait. D'ailleurs, la pochette, c'est une photo qu'il a prise en Afrique d'un nid de fourmis. Encore une fois, elle disparaît, s'essaye à différentes choses, entre autres le cinéma... Et puis, il va faire, en 2002, La Vallée des Réputations. Donc là, on est dans un album folk. C'est aussi la première fois qu'il sort un album sous son propre label, Le Roi Pompon. Il y a une tournée qui suit ça. Il est en pleine forme. Le monde sont comme « Yes, on retrouve Jean Leloup ». Et puis non, en 2003, Jean Leloup annonce sa mort, c'est-à-dire la mort du personnage, brûle sa guitare, sort un film. Et puis, à partir de là, il vit en tant que Jean Leclerc, en faisant entre autres du cinéma, un film Noir Destin que le main. Il écrit un roman sous le pseudonyme de Massoud Al-Rachid. Il sort un album qui s'appelle Mexico en tant que Jean Leclerc. Et puis tout d'un coup, il réapparaît dans l'espace médiatique en tant que Jean Leloup. Ça donne un spectacle au Colisée qui fait scandale parce qu'il insulte un petit peu trop le public.
Et puis ça... Insulter trop le public. Le problème, c'est qu'il est allé trop loin. C'est pas juste qu'il a insulté le public.
Mais c'est ça. Et puis ça donne par la suite Mille excuses, mille dits. Donc un autre album sous cette fois le nom de Jean Leloup. Une tournée avec ses plus grands succès en 2012. Et puis en 2015, Paradis Cité, un album. Encore une fois, on retourne aux sources. Là, il est vraiment... lui-même le qualifiait comme un de ses meilleurs albums.
Et tout ça a pogné quand c'est sorti aussi. Là, ah, c'est pogné énormément.
Oui, puis avec des spectacles aussi. Là, Splendeur et Chute de Paradis Cité et Le Fantôme de Paradis Cité. Deux spectacles qui se complétaient l'un et l'autre, qui étaient très canés, là, donc plus théâtral. C'était, moi, je les ai vus les deux, puis ça valait la peine. Et puis en 2019, L'étrange pays, un album acoustique, lui tout seul avec sa guitare, il l'enregistre partout dans le monde. C'est intéressant, vraiment. Moi, je l'ai redécouvert récemment pour l'émission, puis ça m'a plu énormément. Donc, c'est un tour d'horizon rapide. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. Et déjà, on a des milliers de choses à dire quand on s'intéresse à la vie et à la carrière de Jean Leloup. Et pour ouvrir plus la discussion, j'avais le goût de vous demander assez simplement... C'est quoi, vous, vos premières impressions de Jean Leloup? Les premières que vous avez... Quand vous le voyez apparaître ou quand vous avez commencé à justement le connaître en tant que personnalité publique, par exemple, Milly dans l'adolescence, c'est quoi l'impression qu'il t'a faite en tant qu'artiste?
Moi, ça passait surtout à travers ses textes. C'est vraiment les paroles, les chansons, je pense, qu'il venait me chercher quand j'étais plus jeune. Mais encore aujourd'hui, tu sais, je trouve qu'il y a vraiment une poésie dans qu'est-ce qu'il écrit. Puis j'avoue que dans la vie, de manière générale, je m'intéresse quand même moins à la personne, à l'artiste, plus qu'à son œuvre dans la vie. Mais Jean Leloup, en même temps, on peut pas passer à côté de sa personne parce que c'est tellement quelqu'un de flamboyant. Mais honnêtement, je dis pas ça juste parce que c'est le titre de l'émission, mais il y a une certaine sagesse, Jean Leloup, à travers tout ce qu'il raconte, toutes ses idées, puis la façon qu'il s'exprime, c'est décousu. Il y a des fois, il y a des perles de sagesse dans ce qu'il dit, dans sa façon de voir le monde, qui est quand même vraiment intéressante, je trouve.
Jean Leloup pourrait bien représenter une espèce d'archétype d'un génie incompris, là. Quelqu'un que son cerveau spinne trop vite pour qu'on ait le temps de comprendre tout ce qu'il a à nous dire. Mais moi, ma première impression était plus de l'ordre musical, parce que quand on s'arrête justement au génie musical de Jean Leloup, parce que j'utilise le terme génie, parce qu'il est capable de sortir des hits comme presque aucun autre artiste au Québec est capable de le faire, là. Chaque album a 3-4 hits, c'est excellent, et évidemment, le musicien, comment qu'après va se présenter dans les entrevues, c'est quelque chose de... C'est un événement en soi. Moi, j'adore écouter ça parce que c'est toujours... Ça peut toujours nous amener ailleurs. Il y a pas de cliché. Là. Jean Leloup, et même dans les entrevues, il va jamais dire quelque chose qu'il a déjà dit, j'ai l'impression.
C'est vraiment quelqu'un d'unique, en fait. C'est quelque chose qui le démarque beaucoup, je pense, son unicité, autant dans sa musique. T'sais, personne fait de la musique comme Jean Leloup. Il est vraiment... on entend une chanson à la radio, on le sait que c'est du Jean Leloup tout de suite. Alors qu'il y a d'autres artistes, des fois, qui se ressemblent beaucoup. T'sais, les hits, la musique pop, des fois, t'sais, d'une tune à l'autre, on a tendance à trouver que ça se ressemble, par exemple. Ou, lui, il sort vraiment d'un cadre, puis il fait comme son propre cadre musical. Et c'est vraiment une de ses forces, je pense.
Oui, effectivement, c'est ça. Je suis content que vous soyez plus centré sur la musique, parce que je pense que dans la culture populaire, on connaît surtout Jean Leloup comme la personnalité publique qui, justement, arrive en entrevue et souvent, on le qualifie littéralement de fucké, parfois même de fou. On va parler d'un génie qui frôle la folie et tout ça.
Des fois, le rapport est drôle avec les intervieweurs aussi. Là, j'ai ça dans les commentaires YouTube de quelques entrevues, mais je trouvais que c'était bon. Mais ça, on dirait que des fois, les gens agissent avec lui comme si c'était une espèce d'enfant. Comme s'il était pas, il fallait pas le considérer comme on considère les autres artistes.
Oui, moi j'ai souvent entendu, on dirait, deux façons de qualifier Jean Leloup dans les médias. Et on en parle soit comme justement un enfant un peu incohérent qui fait n'importe quoi, tu sais, puis qu'il est zéro organisé. Ou sinon, on va le présenter un peu calculateur, de comme non, c'est réfléchi, il est arrivé en entrevue, puis il voulait avoir l'air d'un fucké pour vendre des disques. Puis moi, j'essaie de trouver une zone où, ben, en fait, comment mon analyse personnelle, c'est plus, c'est quelque chose entre les deux. Je pense que il y a effectivement, il prépare pas ce qu'il va dire en entrevue. Il est comme ça, il est effectivement pété, mais en même temps, il produit quand même une œuvre et cette œuvre-là, dans son, et il produit une œuvre, puis aussi il y a du propos et ce propos-là, cette œuvre-là, dans son incohérence, je pense, forme un tout assez cohérent. Mm. C'est quelque chose qu'on va pouvoir élaborer encore plus après la pause publicitaire et après une chanson où Jean Leloup va faire son autobiographie. Donc ça s'appelle Au Canada, ça vaut vraiment la peine. Donc on passe à ça après la pause.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Du lundi au vendredi, 16h à 17h30, on se retrouve sur les ondes de Chiz pour parler d'art et de culture. Avec des entrevues exclusives, des chroniques originales et des reportages sur le terrain, je m'engage à vous partager le meilleur de la culture émergente québécoise. Chérie, j'arrive tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Capacé, capté par son receveur, touché, Rouge et Or!
Pour la première fois cette saison, le Rouge et Or de l'Université Laval affronte les Carabins de Montréal. Après une défaite crève-cœur, les hommes de Glenn Constantin tenteront de rebondir face à une équipe qui a connu le même sort qu'elle la semaine dernière. Un nouveau chapitre de la rivalité entre les Carabins et le Rougeur s'écrira ce samedi, 19h, alors que l'avant-match débutera sur nos ondes dès 18h30. Rouge et Or, Carabin, samedi, 19h, à Chiz 94.3.
Tu veux tout savoir sur les élections fédérales?
Pour avoir les résultats en direct, des analyses pour mieux comprendre, des entrevues exclusives, tout ça et bien plus.
Le lundi 20 septembre à partir de 19h avec Guillaume Bédard et son équipe. Écoute la soirée électorale sur les ondes de Chiz 94.3.
Puisqu'on me demande trop depuis longtemps qui je suis, ce que je pense et comment et pourquoi, je vais vous le dire.
Je n'aurais pas voulu en parler pour ne pas être lourd, mais bon là... Moi, mon enfance, ça a été l'Afrique noire et l'Afrique blanche, de 3 à 15 ans. Vous savez, l'Afrique, les colonies, les guerres, la pauvreté, la torture. Dans la rue, en 70 à Alger, il y avait des mendiants avec des jambes coupées, pas de chaises roulantes. Il y avait des gens qui chassaient des mouches tout autour de leur tête, constamment, même quand il n'y en avait pas. C'était ceux qui avaient été torturés à l'électricité. Il y avait aussi au lycée des ex-militaires français qui tapaient leurs enfants pour en faire des hommes, surtout devant tout le monde. Un ami à moi restait enfermé par son père, professeur, ex-colonel, je sais pas, pendant toutes les récréations. Et il se faisait raser la tête quand il avait des mauvaises notes. À l'école, un surveillant me frappait souvent. J'avais 11 ans. Toutes les fois qu'il me voyait, il me tapait. J'avais un poing américain, un couteau à cran d'arrêt. Je m'en suis pas servi, mais j'étais prêt. Pendant ce temps, le Vietnam. On écoutait les bandes de rock et on trouvait que les musiciens étaient des héros. Les chanteurs contestaient, envoyaient chier la bonne conscience, la bourgeoisie, le mensonge, l'hypocrisie. On les admirait. Celle que j'ai aimée, la première, Patricia, était angolaise. À la maison, ils parlaient de la guerre, de la torture. Un jour, ils sont repartis en Angola. Ils envoyaient des lettres tristes qui nous parlaient des bombes. Et un jour, on n'a plus eu de nouvelles. En Angola. En Angola. On lisait Christian F. Et pour nous, ça voulait dire quelque chose. Et Rimbaud et Camus, Camus. On a vu les films Z qui parlaient de la torture. On avait peur. Les gars algériens qui tripaient sur les hippies étaient dans la merde. Se faisaient raser la tête par les flics. Et un jour, ils en ont pris quelques-uns avec du H à la frontière. Et les ont fusillés. Un mois, il y a eu une grève à mon lycée. On a tout cassé. J'ai joué de la guitare contre les politiciens, la torture et les vieux militaires qui dirigeaient. On a rigolé. Le dirais-je? Et le dirais-je? Et le dirais-je? Les enfants de la guerre étaient traumatisés. Le dirais-je? Je vous le promets, j'avais peur. J'étais tabassé à coups de pied. J'ai commencé à jouer de la guitare parce que j'avais moins peur. Et quand on me lançait des pierres de la cité d'à côté, je me mettais devant ma guitare et pas le contraire. J'avais toujours envie de pleurer, mais je ne me rappelais même plus. Je ne parlais plus. Et on prenait des barbituriques et n'importe quoi. On essayait de dirais-je? Tout ce qui... 13 ans, je suis tombé amoureux d'une bergère kabyle de 12 ans. Enfin amoureux, je l'ai vue au loin et je la regardais dans la montagne. Et nos yeux se croisèrent et je rêvais de l'enlever avant qu'elle se fasse vendre à un vieux. Il y avait un chien que des gamins avaient pendu par la taille avec un fil de fer pour le faire crever. Pas de chance, il avait survécu, on le voyait des fois passer avec son fil, entrer dans la taille, enfoncé d'un centimètre. On voulait lui ôter, on lui courait après, mais il se sauvait, il avait peur. Vendre mes chansons à la pub, c'est vendre mon cœur. Il n'y aura pas de fric qui pourra me faire accepter que la boisson gazeuse ou que la bière me la rote légère. Alors on me dit au fric que j'aime le monnaie. En revenant ici, en entendant la musique, ça me faisait chier que j'ai pas ce que je ressentais. Et je trouvais ça tellement plein de bonne conscience, tellement propre. Pourtant ça souffre ici aussi, pas seulement du réchauffement de la planète, ni de l'absence d'un pays, voyez-vous, mais aussi de la torture mentale, la bonne conscience, le mensonge chronique, comme partout. J'ai eu envie que ça groove, pas de me retrouver dans une réunion de cancan. J'ai eu envie de chanter c'est le printemps et c'est l'été et les filles sont déshabillées. Pas de chanter les graines de tournesol yéyé d'un pays. Moi les drapeaux j'en avais soupé. Ah oui, en parlant de drapeau, au Togo un jour, on nous a fait mettre en rang sous le drapeau et les militaires ont fouetté des gars au sein, des opposants au régime, alors moi les drapeaux. J'ai commencé mes chansons en espérant que je vivrais de ça, de pas dire ce qu'il faut, mais de dire ce qu'il ne faut pas. On m'accusait de prétention quand je ne remerciais pas. Vraiment, j'étais si mal poli. Désolé. Vraiment, vraiment. Quand il y a eu la guerre du Golfe, j'ai eu peur que ça se propage. J'aime le Québec, les rivières et les lacs et les fleuves. Excusez, j'aime le Québec, les rivières et les lacs et le fleuve. Et je ne veux pas que le Québec devienne comme ces pays qui ont eu leur heure, remplis de jambes coupées et de gars et de filles traumatisées, où j'ai grandi. Alors j'ai fait cette chanson, 1990, où j'essayais de combattre par le ridicule. Dès que j'ai eu de quoi vivre, je me suis sauvé. Je suis parti en voyage avec une copine sur la plage. Me foutre des bourges, j'ai fêté. Et vive Bob Dylan et Hendrix et Lou Reed. Des bonjours à Dutron et fuck les cons. Je ne carbure pas au gaz de fleurs de lys ni aux rimes ciselées de l'artisan chanteur. Je ne suis pas coulé dans le rock. J'ai un faible pour les guitaristes qui tranchent et les poètes qui singent. Il peut me chaud qu'on me dépasse, ça me fait plaisir. Au boulot, bonne conscience, insignifiance, pire que l'effet de serre, plus vicieux, jeune ou vieux. Il y a encore des femmes lapidées, il y a encore des politiciens qui essaient de leur plaire, tout en plaisant à l'électorat qui les lapide. Que de sourires mielleux, je voudrais qu'on fasse attention, qu'on sache qu'on a de la chance et qu'on ne se vautre pas dedans. De la porte d'ouvre, ce nom qui s'enchale d'un son rancé. Au Canada, porter la croix protégera nos foyers et nos droits. Et Québécois, nous sommes Québécois. Mais ensuite quoi? Au Canada, j'attends encore le fleuron glorieux, le lys victorieux, les pop etc, les pop etc. J'attends encore les pop etc, les pop etc. Au Canada, porter la croix protégera nos foyers et nos droits. J'attends encore le fleuron glorieux, le lys victorieux, les pop etc, les pop etc, les pop etc, les pop etc.
Alors, nous attendions au Canada une sorte de parodie du fameux hymne national canadien de Jean Leloup, mais qui est en réalité, on le comprend, une autobiographie, si on veut, parler, chanter sur de la musique groovy. Pour comprendre, ça vient d'où, là, ça? C'est que, en fait, Jean Leloup avait été insulté après un passage à Tout le monde en parle par Marc Cassivi dans le journal, dans la presse. Et puis, ça a été en 2006. Et puis, ça a pris, bon, une petite affaire, une petite controverse qui a pris un peu d'ampleur. Et finalement, le chanteur a décidé d'aller à l'émission de Christiane Charrette pour répondre à ce qui s'était fait dire aux critiques qu'il avait reçues avec cette pièce-là au Canada. Donc, ça, c'est sur aucun album. C'est sur YouTube avec un vidéoclip très intéressant avec des danseurs. Donc, c'est ça qu'on attendait à l'instant.
J'avais jamais entendu cette chanson-là. Moi, j'étais bien content de la découvrir dans le cadre de l'émission.
Ouais, ben clairement, c'est méconnu. Là. Je pense qu'il est juste disponible sur YouTube, genre... Donc, mais c'est une découverte intéressante.
Oui, ben surtout que c'est ça. Tantôt j'en parlais un peu, le mélange entre sa musique et l'enfance et son enfance. Donc il en parle dans la chanson. Il y a quelque chose là à propos des drapeaux, donc du fait de ne pas s'identifier au drapeau. Ça revient, ça je l'ai entendu plusieurs fois le dire. en entrevue, parce que c'est sûr que pour lui, tout le sentiment fort, identitaire, ça a créé des drames auxquels il a assisté. Donc,
l'identité dans la nation, là, est-ce que ce sentiment identitaire-là, c'est par rapport à la provenance géographique, là, tu veux dire?
Oui, c'est ça, de trop s'attacher à ce qui est finalement un symbole. Donc, il n'y a pas ça. Puis c'est intéressant parce que Jean Leloup est arrivé dans les années 90, où, bon, en 95, on a le référendum, donc il y a un retour, on a les colocs en même temps. Là, on a parlé de Dédé Fortin ici à la Planète des Sages, mais c'est deux artistes qui ont cohabité dans l'espace musical québécois. Mais qui sont complètement différents à ce niveau-là. Jean Leloup, la dernière chose au monde, la dernière façon que je le décrirais, c'est en tant que chanteur engagé. Mmh. Il y a eu certains en 1990, c'est engagé, il a fait une chanson aussi, Les Corneilles, c'est engagé, mais tu sais, c'est pas comme ça.
C'est pas politique, vraiment.
Non,
là.
C'est ça.
C'est pas à travers ça qu'il se définit, en fait, non plus. C'est pas dans ce qu'il écrit, dans son œuvre, ça a pas d'une volonté politique ou mobilisatrice non plus, je pense.
Exactement. C'est pas un militant, par exemple. Et puis, ça, je pense que ça participe à ce qu'on traitait. Finalement, on n'a pas mis le mot tout à l'heure, mais on parlait de sa marginalité, au fond. Et c'est ce que cette chanson-là décrit. C'est lui, en tant que personne qui a grandi dans la marge et qui fait quelque chose dans la marge. Il vient dire, en plus, là, en sachant que la chanson est une réponse à des critiques qu'il a reçues, de comme, mais regardez, si ça vous intéresse pas, si vous aimez pas ça, prenez votre trou. Là. C'est un peu ça sa réponse. Moi, c'est ça que je fais, puis c'est ce que j'ai le goût de faire, puis c'est pour ça que je le fais comme ça, parce que je viens de là. Donc, je trouvais ça quand même vraiment pertinent de mettre la chanson dans le cadre de cette émission, vu qu'on réfléchit à Jean Leloup.
Mais on pourrait dire d'évoquer le fait de moi, je fais mes affaires, puis c'est à prendre ou à laisser, là. Ça représente bien, on dirait, comment que Jean Leloup va à la fois créer musicalement ou artistiquement et même se présenter, c'est comme je fais mes affaires, puis ça donne. Lui, on dirait qu'il est comme ça donne que vous aimez ça, tant mieux, là, mais si vous aimez pas ça, ben tant pis. Mais il n'y a pas cette notion-là de d'avoir une dépendance envers le public ou envers les critiques. Il n'y a pas une relation de j'ai besoin d'eux. Là. C'est, il fait ça de son bord un peu autonome, on dirait. Là.
Ben, je pense qu'on pourrait dire en fait que c'est quelqu'un de très authentique, Jean Leloup, finalement.
Oui, et c'est quelque chose qu'on ressent quand on l'entend en entrevue. On avait commencé à l'aborder tout à l'heure, mais on peut aller l'écouter en entrevue pour bien voir le personnage. Et en plus, tout à l'heure, j'en parlais un peu, c'est suite au scandale au Colisée. Donc, il accordait une longue entrevue à une émission Musique Plus qui s'appelle Info Plus, une entrevue de 30 minutes où il revenait sur le moment où il a un peu trop insulté le public. Puis explique pourquoi. Je vous laisse l'écouter.
Il y a toujours eu ça, un élément de danger dans un show de Jean Leloup. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer et ça fait partie de l'attrait un peu.
Ben, c'est une question de cerveau. Hein. Là, ça dépend de. Tu sais, le show commence. J'ai deux choix. Hein. Si le show commence puis ça sonne bizarre ou il y a des trucs qui. Je peux faire semblant que ça va bien. Je suis content de vous voir, vous êtes donc fin puis tout. Là. Puis je peux faire ça, puis je vous aime, puis vous m'aimez. Mais finalement, le show est un peu raté. Parce que dans le fond, tu règles pas le problème. Tu fais juste être de bonne humeur stupidement. Ou gentiment, ou enfin, whatever, de ta nature. Puis moi, je porte pas de in-ear. Hein. Alors si le son est difficile, j'ai pas de trucs dans les oreilles. J'aime pas ça être plugué là, partout, dans le cul, partout. Là. Fait que je m'en vais les oreilles normales. Donc il faut qu'on pogne une vraie groove. Puis là, des fois, s'il y a beaucoup d'écho dans la salle, c'est long à pogner la groove, puis il faut que le public soit on aussi. Si le public crie dans le beat, ça marche. Supposons, tum, tum, ah! S'il crie dans le beat, mais si à un moment donné, ça crie un peu partout, avec l'écho, ça peut être compliqué. Fait que là, je vais dire au monde, arrête, Colin, vous me tapez sur les nerfs.
Donc, il va dire à son public qu'il a tapé ses nerfs.
Ouais, puis là, c'est très drôle. Là, il s'est forcé en entrevue parce qu'il a dit « Arrête, Colin », mais d'un fois en spectacle, pour avoir écouté justement l'enregistrement du spectacle au Colisée, c'est pas Colin qui le dit. Parce que, ben c'est ça, c'est fascinant d'un artiste qui dit « Moi, je vais arriver sur scène, puis... » Non, ce sera pas toujours le même spectacle. Il y a des publics qui sont le fun, puis il y a des publics plates. Mais aucun artiste a
cette authenticité-là, justement, de vous dire, hey, vous êtes plate comparativement à eux d'hier. Là, après ça, il y a une partie aussi que c'est Jean Leloup, comment qu'il le ressent dans sa tête aussi. Là,
son cerveau, comme il dit, ça dépend des cerveaux. C'est toute une formulation à Jean Leloup, Jean Leloup-esque.
Oui, ben d'ailleurs, on souhaitait mettre. Ben François, tu as insisté pour remettre la question de l'intervieweur pour avoir ce moment-là où il y a quelque chose de décousu dans la réponse. Là. Il entend, question du cerveau, c'est pas clair. Et là, il pogne une traque, il dit quelque chose qui fait du sens, là, finalement. Mais au début, c'est vrai qu'on est comme, où est-ce qu'il s'en va? Puis il y a ça en entrevue, là, une façon de détourner toujours. Il faut que les intervieweurs travaillent fort parce que Jean-Louis est tout le temps en train de les emmener ailleurs.
Ça cultive cette espèce de persona marginal, mais en même temps, c'est aussi qu'il tombe jamais dans des sentiers battus. Là. Avec lui, c'est toujours... Il n'y a pas de lieu commun ou des clichés. On voit que dès qu'il y a une entrevue, c'est pour ça que moi, de mon côté, je disais que j'aimais ça, écouter les entrevues de Jean Leloup. C'est un peu une espèce d'événement. C'est parce que tu peux pas t'attendre à la même chose que la dernière fois ou de tout ce que les autres artistes font, là, tous les autres artistes font. Et parce que ces entrevues-là, on va se le dire aussi, normalement, là, pour l'artiste, c'est de plugger ses shows, son album, dire aux gens d'aller l'acheter. Fait que c'est comme ça revient, c'est supposé être là. Mais lui, il répond parfois même pas à ces questions-là, puis t'as même pas su finalement les informations nécessaires par rapport à l'album, mais ça donne de quoi être génial. Là.
Mais en même temps, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Tu sais, les gens qui sont fans de Jean Leloup, autant de la personne qu'il est que de sa musique, je pense que c'est ce que les gens apprécient aussi, finalement, qu'il joue pas la game du succès musical, d'aller plugger son album, aller faire son petit lancement, dire au monde « c'est super bon, achetez-le ». Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui le rend un vrai artiste, finalement, tu sais, qui fait de l'art pour l'art aussi.
Oui, et justement, tantôt, quand je disais c'est dans son incohérence qu'on trouve la cohérence, c'est un peu ça que je veux dire. Il vient représenter par là un pan de notre humanité, parce que l'humain est incohérent. On n'est pas toujours en train de prendre, tu sais, une direction claire.
On n'est pas toujours stratégique, là.
Non, c'est ça. Puis Jean Leloup, bon, c'est exacerbé dans sa personnalité pour différentes raisons. C'est sûr que, lui-même en parle qu'il y a certains troubles mentaux, de bipolarité, de TDAH, des trucs comme ça. Donc c'est sûr que ça l'exacerbe, je pense, ce côté-là un peu, comme je dis,
excentrique
et tout. Mais reste que ça nous... De voir un artiste qui assume ça dans son art, qui assume ça aussi dans la façon qu'il se présente dans les médias, on dirait que ça fait du bien, qu'on est en train de voir quelqu'un qui, justement, montre quelque chose qu'on montre pas souvent.
Ben oui, c'est ça. On dirait qu'il devient attachant parce que le fait de ne pas se présenter sous une espèce de masque social de l'artiste qui vient présenter son album, que normalement on est habitué, et qu'il se présente d'une façon que nous, comment qu'on le voit, ça a l'air authentique, ça a l'air... Et authenticité, moi, je mets ça un peu proche avec la vulnérabilité, parce que quand on est un masque social, on est un artiste, mais on peut se cacher. C'est un personnage, là, tu sais, c'est où on se cache dans des lieux communs qui fait qu'on n'est pas vraiment en train de nous-mêmes, de notre être plus profond, de se mettre à nu. Mais lui, étant donné qu'il est plus dans justement l'authenticité, c'est une forme de vulnérabilité. Et tu le vois comment que dans l'entrevue, il se rend compte de ça aussi, qui est comme là, j'ai-tu bien répondu? Hey, je m'excuse. Il essaie de quand même bien naviguer avec, tu sais, malgré que ça fait des entrevues particulières, il essaie quand même de créer un moment humain, puis avec. Autant, des fois, c'est pour et c'est contre. Là.
Mais clairement, il est conscient de qui il est puis qu'est-ce qu'il fait. Il sait comme... Il est intelligent, donc il sait que quand il est dans une entrevue, qu'il répond un peu à gauche, à droite, en faisant des parallèles ou des envolées, il est quand même conscient du fait que les autres gens font pas ça ou s'expriment pas comme ça. Puis c'est pour ça que je pense que des fois, il va dire « Hey, mais là, c'est-tu correct? » Ou genre « Hey, ouais, c'est pas clair ce que je viens de dire. » Mais en même temps, je trouve qu'on sent qu'il y a le souci d'être entendu, d'être pas nécessairement compris, parce que probablement qu'il se sent un peu incompris, Jean Leloup, je sais pas. Mais il y a quand même cette idée de ben, dire ce qu'il y a à dire, puis que ça soit entendu par autant, mettons, ses fans, que les gens qui écoutent tout le monde en parle quand il est de passage, tu sais.
Oui, et c'est un gêné aussi, ça, pour avoir écouté beaucoup d'entrevues cette semaine, il le dit à quelques moments, on n'a pas cette impression-là. Souvent, en fait, les artistes, on leur accole vite l'étiquette excentrique qu'on disait tout à l'heure, comme si c'était des personnes, parce qu'ils se présentent devant des foules, nécessairement sont à l'aise socialement, alors que parfois, c'est un peu l'inverse. Si t'as besoin, des fois, c'est un peu un mécanisme de défense, si on veut, de faire comme, OK, je suis pas bien avec des gens, mais fait que je vais prendre l'attention et je vais la prendre de façon un peu excentrique. Mais tu sais, en entrevue, là, tu le vois des fois où il est littéralement, comme t'en parlais, vulnérable. Et dans l'extrait qu'on vient de mettre, moi, je voulais pas passer à côté quand même. J'en ai parlé un peu directement après l'extrait, mais cette façon-là de ne pas vouloir faker le fun, faker le fun, c'est très français, mais de un plaisir un peu construit, ça, c'est vraiment une des raisons pourquoi j'aime beaucoup Jean Leloup. Puis je voulais absolument vous lire une citation à ce propos-là. Il dit « Imagine s'il me prend l'idée d'être régulier. Je rentre sur scène et je dis « Merci d'être venu. » Je commence avec « I lost my baby. » Et là, tous les nostalgiques se mettent à applaudir. Après, je pleure et je dis « On s'aime, hein? » Après, je leur fais 1990 et je dis « Vous vous rappelez, vous? » Après ça, on voit la naissance de mon bébé dans le journal. Si je veux atteindre une régularité, je vais devoir me mettre au golf. Vraiment une parodie d'un monde qui il refuse totalement. Avec ses paradoxes, parce que ça, il disait ça justement là, après le scandale, donc à peu près 2008, avant Mille Excuses, Mille Lady, mais finalement, il va faire des tournées avec ses plus grands succès. Donc, c'est quand même intéressant de le voir naviguer là, dans le paysage culturel là, québécois. Mais ça, c'est ce qu'on voit de lui ça, dans la culture populaire. Mais quand même, je veux qu'on termine l'émission en prenant un beau moment pour aller dans son œuvre, aller voir son univers, l'univers qu'on a qualifié. François, t'as dit Leloup-esque.
Leloup-esque, Leloupien, qu'est-ce
Leloupien.
Que. Leloupien.
Moi, je dirais Leloupien.
Leloupien, on va y aller avec Leloupien.
Et quoi de mieux pour parler, commencer ce beau moment qui, selon moi, va être un moment parfait, parce qu'on parle de Jean Leloup, alors qu'avec la chanson Les moments parfaits.
Mais les moments parfaits. Repartent au petit jour, car rien de moins certain que les tristes humains. Et on attend qu'ils reviennent toujours, mais les moments parfaits ne reviennent jamais.
Alors, une magnifique chanson de l'album Mille Excuses, Milady.
T'es en 2009, je crois, Mille Excuses, Milady?
Oui.
Il me semble, je vais aller vérifier, mais pour nous
très
mettre...
exactement, oui. Donc, une chanson qui décrit justement ces moments fugaces où on se sent enfin en parfaite harmonie avec le monde et qui, malheureusement, doivent disparaître. Je trouve que ça fait un beau lien avec ce qu'on parlait avant, parce que qu'est-ce qu'un spectacle si ce n'est ça, un moment qui est là, qui est fort, mais qui va s'effacer et qu'on ne peut pas reproduire, justement. Donc, je pense que là, on voit de la cohérence dans l'œuvre de Jean Leloup. Et d'ailleurs, c'est un thème dans ses chansons qui, moi, m'intéresse beaucoup, me questionne, que j'appellerais la recherche du paradis, si on veut, et que je peux rattacher à ce proverbe gitan que vous avez tous entendu, qui est tellement quétaine, mais en même temps tellement vrai. Ce n'est pas la destination, mais la route qui compte. Donc, c'est quelque chose que... Ouais,
je vraiment... On va faire une publication Instagram avec celle-ci bientôt.
Avec une photo de coucher de soleil, ça serait beau.
Mais c'est vrai que c'est un cliché, mais un cliché, souvent, c'est à cause qu'il y a quelque chose derrière qui fait que tout le monde veut l'utiliser. arriver parce que ça vient nous chercher.
Bien sûr.
Exactement. Et ben Jean Leloup, je pense que le traite, mais pas de façon cliché, dans Paradis City, dans Zone Zéro, sur le même album, dans la chanson Le Paradis Perdu, qui est probablement un hommage à Milton, dans Les Moments Parfaits, dans Le Dôme aussi.
Le Dôme, qui est une espèce de construction symbolique particulière. C'est très. Quand on parle de l'univers de Jean Leloup, ben c'est ça, d'avoir créé une image forte, mais quand même très unique. Ça, c'est impressionnant.
Oui, oui. Non, c'est. Fait qu'il y a toujours ça, cette espèce de quête de je vais atteindre un moment. Il y a ça aussi dans comment il s'exprime en entrevue. Il y a même ça dans son œuvre romanesque, Le Noir Destin Calomnié. J'ai pas lu le livre, mais il a fait un film de 30 minutes. C'est très bizarre, mais je vous le recommande quand même. Mais c'est la même quête, finalement. Donc, c'est toujours cette idée-là de on va aller quelque part, puis ça va être beau. Mais, non, tu sais, le paradis perdu, il est dur à se rendre. Et finalement, c'est la chanson Le Paradis Perdu, il passe plus de temps à nous décrire le voyage vers le paradis, comme le dôme aussi. Donc, c'est ça, cette quête. Et ça vient avec un autre thème qui est celui, je pense, de l'éternel recommencement, de devoir recommencer les choses, comme dans la chanson Recommencer, comme dans Johnny B. Good, comme dans Johnny Go, comme dans Je suis parti, dans Voyager. Donc, je sais pas, ce thème-là, pour moi, est vraiment partie prenante de son œuvre et représente quelque chose qui est peut-être pas si présent dans la littérature, la musique, mais moins que j'aimerais.
mais ce thème-là d'un recommencement ou d'une espèce de d'un retour à un paradis puis de retomber du paradis, d'y retourner, ben c'est en plus il y a quelque chose de qui symbolise presque ce que Jean Leloup est comme personne, parce qu'à chaque fois qu'il fait un nouvel album, chaque fois qu'il entame un nouveau projet artistique, on a l'impression que c'est une espèce de... C'est le phénix qui veut renaître de ses cendres à chaque fois. On enlève le passé et on veut renaître d'une autre façon. On veut créer quelque chose de différent. Le passé, c'est le passé. Il semble pas avoir un grand attachement au passé. Là.
C'est très exactement la théorie de Murray. Dans son livre, elle parle de la mygale, qui est un symbole utilisé par Jean Leloup lui-même au moment de sa mort. Donc la mygale, c'est une araignée qui refait finalement tout le temps, qui mue à chaque année. Elle parle des mutations de Jean Leloup. Donc comment on le voit toujours apparaître avec un nouvel ethos, donc une nouvelle personnalité artistique, si on veut. La thématique de l'araignée, François, je sais que toi, si moi c'est le voyage, l'éternel recommencement et la recherche du paradis, toi c'est le monde animal.
Ben oui, c'est surtout deux sphères du monde animal, mais les insectes, parce qu'il y a la mygale que tu mentionnais, mais il y a d'autres chansons comme l'escargot ou l'album Les Fourmis. Donc on voit que Jean Leloup, il va souvent utiliser la thématique des insectes. Et je trouve ça intéressant parce que ça peut avoir un symbolisme fort, comme des artistes comme Dali, qu'on sait utiliser énormément les insectes, et ça avait toujours une évocation. Le symbole, c'est toujours flou un peu, mais ça quand on parle d'une chanson, de la poésie, on voit que quand on fait juste écouter du Jean Leloup, on peut tomber, c'est suffisamment bien écrit littéraire pour qu'on puisse essayer de tomber dans ce monde-là du symbolisme. Et une autre image animale qui ça fait ça un peu, mais c'est les oiseaux qui sont omniprésents dans l'œuvre de Jean Leloup. Là, les chansons, il y a le grain rond, pigeon, flamant rose, les goélands. Donc, juste en termes de nom de chanson, on fait le tour, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que souvent, presque une fois par album, quand on écoute Jean Leloup, à un moment donné, on va l'entendre imiter le corbeau, quoi. c'est très drôle, mais tu sais, ces oiseaux aussi peuvent avoir une évocation forte, là, si on veut coller ça à Jean Leloup, ben quelque chose, il y a de la liberté, le voler, s'émanciper, ben ça fit un peu avec l'oiseau et ça fit avec Jean Leloup. Là. De ton côté, Émilie, je sais pas si dans le monde leloupien, qu'est-ce qui va plus te chercher?
Je pense qu'on peut pas passer à côté de l'amour dans les chansons de Jean Leloup. C'est un thème qui revient quand même souvent, mais surtout le fait que c'est pas facile d'être en amour là, quand on est Jean Leloup.
Et quand Isabelle te laisse tomber aussi.
Exactement. À la fois, il parle de l'amour comme quelque chose de beau, de fort, d'intense, mais il y a souvent un côté un peu dramatique ou en tout cas beaucoup de chansons qui se penchent plutôt sur l'échec amoureux, finalement. Il y a plein de paroles, mais le plus simple, je veux te dire que je t'aime, voilà, qui est quand même une magnifique déclaration d'amour, tellement simple et jolie. Mais à la fois, il y a cette partie-là, je pense qu'il vient rejoindre beaucoup de gens, finalement, dans ces chansons d'amour qui sont très belles et qui nous donnent le goût d'être en amour, finalement.
Oh, oui,
moi aussi, je suis quétaine.
Ouais. On peut tout retirer quelque chose de Jean Leloup, c'est le fun.
Ouais, ben,
c'est ça le mandat de l'émission. On vous rappelle que c'est ça le concept. Fait qu'on espère que vous avez apprécié et que vous allez revenir la semaine prochaine.
Ben oui, puis si j'avais à conclure sur Jean Leloup, je dirais que comme Jean Leloup, je pense qu'on est beaucoup à ne pas savoir où on va, à ne pas savoir ce qu'on fait exactement. Mais par sa musique, je pense qu'on sait qu'on peut trouver un peu de beauté dans notre incohérence, puis on peut vivre parfois des moments parfaits. Ça va être ça.
Bon, ben nous autres, c'était la planète des sages et c'était notre moment parfait qu'on a vécu de 11h à midi. On va leur faire les autres semaines aux ondes de 694.3. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. On va parler de Mathieu Ricard, donc moine bouddhiste et personnalité plus que qu'un simple moine bouddhiste. On va vous parler de ça. Ça va être le fun aux ondes de 694.3.
Et nous sommes également sur Spotify et sur Facebook.
Suivez-nous. Puis sur ce, on vous souhaite une excellente journée. Merci Émilie, merci Patrick d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Merci, au revoir.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Réveilleurs and shout, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!